Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici Le Cochon et le Loup, raconté par Michel Pastoureau dans une émission de Mathilde Wagman, car les animaux aussi ont leur histoire.
L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde.
Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif.
Bête comme
ses pieds.
Oh. C'est toi qui es bête comme tes pieds.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, cette semaine, nous nous souvenons que les animaux ont eux aussi leur histoire. Cette histoire, c'est Michel Pastoureau, spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, qui nous la conte en retraçant le parcours à travers les siècles de 8 animaux célèbres. J'ai l'intuition qu'il porte à celui dont nous allons parler aujourd'hui un intérêt tout particulier. Sale, goinfre, impur au regard de toutes les religions monothéistes, cet animal est mal aimé, méprisé. Et pourtant, le proverbe ne nous enseigne-t-il pas qu'en lui, tout est bon ? La science ne nous apprend-elle pas qu'il est, de tous les animaux de la ferme, le plus intelligent ? Comment comprendre alors un tel désamour ? C'est ce que nous tâcherons d'éclairer, aujourd'hui, portrait du cochon. Je peindrai ici l'image du porc. C'est une bête solide et tout d'une pièce. Sans jointure et sans cou, ça fonce en avant comme un soc. Cahotant sur ses quatre jambons trapus, c'est une trompe en marche qui quête, et toute odeur qu'il sent, y appliquant son corps de pompe, il l'ingurgite. Que s'il a trouvé le trou qu'il faut, il s'y vautre avec énormité. Ce n'est point le frétillement du canard qui entre à l'eau, ce n'est point l'allégresse sociable du chien, c'est une jouissance profonde, solitaire, consciente, intégrale. Il renifle, il sirote, il déguste, et l'on ne sait s'il boit ou s'il mange. Tout rond, avec un petit tressaillement, il s'avance et s'enfonce au grassin de la boue fraîche. Il grogne, il jouit jusque dans le recet de sa triperie, il cligne de l'œil. Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Pour ouvrir cette émission, je viens de vous lire le début du poème de Paul Claudel qui s'intitule « Le porc », qui est paru dans son recueil « Connaissance de l'Est » en 1900. C'est une description pour le moins originale du cochon que Claudel nous fait ici parce qu'elle est amicale, on pourrait presque dire fraternelle. Claudel, lui, semble regarder le porc sans mépris.
Oui, c'est un texte peu connu de Claudel, mais qui est daté 1900. Et c'est une époque où on a... en Europe occidentale, pas mal d'intérêt pour le cochon qui est censé porter bonheur. C'est une époque où on envoie beaucoup de cartes postales sur lesquelles on voit associer l'image d'un cochon et celle d'un trèfle à quatre feuilles. Il y a avant la Première Guerre mondiale, comme ça, toute une iconographie du cochon plutôt sympathique et surtout porte-chance qui fait contraste avec l'iconographie du porc dans les siècles et même les millénaires précédents.
Pour Claudel, c'est un animal de jouissance, nous dit-il.
Oui, alors je ne sais pas quels étaient les goûts alimentaires de Claudel, mais c'est vrai que le cochon évoque par différents biais la sensualité et spécialement le sens du goût. On mange toutes sortes de choses tirées du cochon, sa chair, mais aussi son sang, par exemple, sous forme de boudin, puis un certain nombre de ses entrailles et d'autres produits qui forment des triperies, pourrait-on dire. Dans le cochon, tout est bon. D'ailleurs, il n'y a pas que l'alimentation de tout temps, on a retiré du porc non seulement des produits alimentaires, mais des cuirs, des os. Au Moyen-Âge, avec les os de porc, on fait la colle, les soies avec lesquelles on fait des brosses, plus tard des pinceaux. Bref, vraiment, oui, dans le cochon, tout est bon.
Dans le cochon, tout est bon, mais avant qu'on le consomme en grande quantité, qu'on le mange, il n'a pas toujours été un animal domestique.
Oui, alors on discute beaucoup aujourd'hui pour savoir si le cochon descend du sanglier, domestiqué au fond, ou bien si ces deux animaux ont un ancêtre commun. Les spécialistes de la domestication ne sont pas tout à fait d'accord, mais ils s'accordent en revanche sur les dates pour dire qu'au Proche-Orient, le cochon n'a été domestiqué qu'à partir du moment où l'homme a été sédentaire, et même un peu plus tard, donc aux environs de 5000, 6000, 7000 avant notre ère. il est domestiqué, en tout cas bien plus tard que le mouton, la chèvre, le chien ou le chameau, parce que c'est un animal qui ne peut pas suivre les populations nomades, contrairement au mouton. Ça peut expliquer aussi un certain nombre de tabous et d'attitudes envers le porc dans les millénaires suivants. Les peuples qui ont été nomades et qui le sont restés longtemps se sont méfiés de cet animal qui ne pouvait pas les suivre dans leurs déplacements.
Alors j'ai dit pour ouvrir cette émission que, au cours de sa longue histoire, le cochon était un animal méprisé, bien des fois, dans l'Antiquité. Pourtant, cet animal n'est pas du tout dévalorisé.
Oui, il y a deux attitudes différentes envers le cochon dans l'Antiquité. Il y a les admirateurs et même les élateurs du cochon, les Grecs et les Romains, mais aussi les Germains, les Gaulois, qui aiment le porc, qui glorifient plutôt le cochon. Et puis à l'opposé, chez d'autres peuples méditerranéens, notamment ceux dont parle la Bible, le porc est souvent un animal méprisé, rejeté et même taboué, d'où les interdits que l'on trouve dans le Lévitique et le Deutéronome pour ce qui est de la Bible. Mais il y en a d'autres chez les Égyptiens ou chez les Phéniciens, par exemple. C'est un animal qui n'est pas consommé et même dont les produits peuvent être plus ou moins taboué, la peau, les os, dans la culture hébraïque ancienne, même le nom du porc ne doit pas être prononcé. Il fait partie d'une liste assez longue d'ailleurs d'animaux qui sont réputés impurs, mais il est probablement, pour la Bible, le plus impur des animaux impurs. Alors on a beaucoup réfléchi, travaillé, émis des hypothèses. Aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a évacuer l'hypothèse climatique et hygiénique qui avait longtemps cours, à savoir que dans les pays chauds, la viande de porc se conserve mal et apporterait à l'être humain qui la consommerait toutes sortes de maladies. On a abandonné cette idée-là parce que ça n'est pas vrai comparativement à d'autres viandes. La viande de bœuf ou de mouton ne se conserve pas tellement mieux. Et surtout, dans les mêmes régions, avec le même climat, certains peuples mangent du porc et d'autres n'en mangent pas. Plus solide, évidemment, est l'hypothèse selon laquelle, contrairement aux autres herbivores, le cochon, lui, se nourrit d'immondices, de charognes, parfois de sa propre progéniture. Donc ça, du point de vue symbolique au moins, c'est assez répulsif. On a aussi avancé des hypothèses historiques, à savoir que le porc aurait été l'animal sacré, l'animal totem des plus anciennes tribus chez les Hébreux, ou bien chez le peuple que les Hébreux ont remplacé dans la terre promise, les Cananéens. Ces hypothèses sont assez fragiles. De manière plus positiviste, on s'est demandé si dans ces régions où l'eau est une rareté, on n'élève pas de cochon parce que celui-ci a un énorme besoin d'eau pour différentes raisons. Il a aussi besoin d'être conduit dans la forêt, dans ces zones géographiques où les forêts sont rares. Bref, aujourd'hui, deux hypothèses semblent plus solides que les autres. L'une qui n'isole pas le cochon, mais qui prend ensemble tous les animaux taboués ou réputés impurs, ce sont ceux qui sont difficiles à classer, qui sont hors catégorie. L'autre hypothèse, peut-être encore plus solide, ce serait de souligner que il y a un cousinage biologique entre l'homme et le porc. Et ça, les sociétés anciennes le savent, les médecines antiques soulignent cette parenté anatomique et physiologique. La médecine arabe prend le relais, la médecine médiévale enseigne l'anatomie du corps humain dans les écoles de médecine en disséquant le cadavre de la truie ou du verra. Et la médecine la plus contemporaine emprunte beaucoup de produits au cochon et confirme pleinement cette parenté biologique, anatomique, physiologique. Donc le cochon,
on le rejetterait en fait parce qu'il nous ressemble.
Voilà, il nous ressemble trop. Manger du porc, c'est presque être cannibale. D'ailleurs, plusieurs témoignages au fil de l'histoire soulignent que la chair de l'homme a le même goût que la chair du cochon. Donc il y aurait ce tabou-là.
Dans le christianisme, le porc est aussi considéré comme un animal impur lorsqu'il n'est pas considéré comme un attribut de Satan.
Oui, l'attitude du christianisme vis-à-vis du cochon est ambivalente, elle est même ambiguë. Les mauvais aspects, bien sûr, ce sont la goinfrerie, la saleté. Certains auteurs du Moyen-Âge soulignent que le cochon a toujours la tête baissée pour fouiller dans le sol et qu'il ne lève jamais la tête vers le ciel, c'est-à-dire vers Dieu. C'est un grand péché. Tardivement, d'ailleurs, on lui a associé, en plus de tous ses vices, un vice supplémentaire, celui de luxure. Et puis, à un moment, il y a un glissement symbolique et ce pauvre cochon reçoit, en plus de tous ses vices et de tous ses péchés, celui de luxure. Et le cochon, oui, pourrait-on dire, commence à faire enfin des cochonneries à la fin du Moyen-Âge et surtout au début de l'époque moderne pour débarrasser le chien, qui était l'animal luxurieux par excellence. Et ça nous est resté.
Mais c'est, du coup, ce qualificatif, cette dimension lubrique du cochon, elle vient d'où ?
Eh bien, elle est facilitée par le fait que le cochon est sale ou passe pour être sale physiquement. Il a l'air d'aimer la boue. En fait, il transpire mal et il a besoin d'eau. Et quand il n'a pas d'eau, il va la chercher là où il y a de l'humidité, c'est-à-dire dans les égouts, dans les marécages et dans la boue. Donc on a l'impression qu'il aime la saleté. Et donc de la saleté physique à la saleté sexuelle, on a franchi le pas assez facilement. Mais le cochon n'est pas plus sexuel qu'un autre animal. On lui a prêté, bien sûr, par projection anthropomorphe, un plaisir immense dans l'acte charnel, mais il pratique comme tous les autres quadrupèdes et il n'a pas l'air de jouir plus que les autres animaux.
Mais la truie met bas un grand nombre de petits.
Alors la truie est féconde, c'est une bonne mère, elle a une progéniture abondante, elle protège plutôt ses petits contre d'autres animaux, mais elle est aussi vorace, elle aurait la tendance parfois à les écraser à la naissance et à manger ceux qui sont morts-nés en quelque sorte. Et par extension, le cochon va devenir un attribut, bizarrement, de la prospérité et puis même de la richesse, avec l'idée que un cochon, c'est facile à élever, une truie donne naissance à beaucoup de cochons, qui possède un porc peut s'enrichir, en quelque sorte, ou en tout cas ne sera jamais pauvre. D'où l'idée de ces rapports entre le cochon et l'argent, et la naissance...
Le cochon tirelire, notamment.
Et la naissance, en effet, des premières tirelires, dans le courant du XVIIIe siècle, d'abord en Écosse, puis en Angleterre, puis sur le continent. Et ce lien avec l'argent, avec la chance, avec la fortune, atteint son apogée, comme nous le disions au début, dans ses porte-bonheur et ses cartes postales des années 1900.
Alors, pour le christianisme, hein, si je reviens au christianisme, on a vu cochon lubrique, cochon associé à l'argent, cochon sale, goinfre, mais malgré tout, il est un personnage de la chrétienté qui semble présenter une image tout à fait positive du cochon. C'est saint Antoine, Michel Pastoureau.
Oui, la symbolique chrétienne a toujours besoin de soupapes, donc ici, il faut des bons cochons, et le bon cochon, dans la géographie, c'est celui de saint Antoine, un des plus grands saints. Mais l'histoire connaît quelques renversements. Saint Antoine, c'est le fondateur supposé du monachisme, un homme extrêmement pieux dans le désert d'Égypte. Il s'est retiré pour mener une vie ascétique, il est rejoint par des disciples, donc il va s'installer un peu plus loin pour être seul. Là, le diable l'attaque, lui envoie des bêtes féroces, des femmes séduisantes pour le tenter, pour l'agresser. Et quand la légende du grand saint Antoine se déplace en Occident, c'est la forêt qui remplace le désert, et dans les images et dans les textes, les animaux effroyables qui viennent l'agresser sont des bêtes de la forêt, ours, loups, sangliers. Et puis au fil du temps, un peu avant l'an 1000, après l'an 1000, il n'en reste plus que deux, le loup et le sanglier, puis un seul, le sanglier, et qui rapidement, de porc sauvage, se transforme dans les images en porc domestique. Et alors au lieu d'être un envoyé du diable, ce cochon domestique se transforme en compagnon du saint, et dans l'iconographie, il est son attribut obligé à partir des 11e, 12e siècles jusqu'au 19e siècle, au point même que l'autre saint Antoine, le franciscain, le compagnon de saint François d'Assise, qui n'a rien à voir avec les cochons, est parfois doté lui aussi d'un attribut porcin dans certaines images de l'époque moderne.
Dans la représentation de saint Antoine et son cochon, cochon. Saint Antoine est en effet souvent représenté dans la forêt, mais au Moyen-Âge, le cochon habite autant la forêt que la ville.
Oui, dans la vie des villages, l'usage est de réunir les cochons de chaque famille, un porcher les guide sur les chemins, dans les landes et à l'automne, dans les forêts où les cochons vont manger sous les chênes et sous les hêtres, les glands et les faines, avec un calendrier qui est de plus en plus contraignant et restreint au fil des siècles, cette façon d'emmener les porcs dans la forêt. Pendant le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central, c'est assez libre. Et puis les droits émis par les seigneurs se restreignent. Les villageois protestent. Ce sont des querelles et des conflits sans cesse, encore à la veille de la Révolution, où le calendrier, en général, va du début du mois de septembre jusqu'au 11 novembre, le jour de la Saint-Martin, de la Saint-Michel à la Saint-Martin, en quelque sorte. Donc c'est très court. Il est interdit aux porchers de taper sur les branches des chênes pour faire tomber les glands. Et puis, on s'aperçoit...
Pourquoi ? Parce que le gland est considéré comme une richesse ? Pourquoi on leur interdit ?
Oui, pour pas qu'ils en prennent trop, pour ne pas qu'il y ait trop de cochons dans la forêt, parce qu'ils ont une action dévastatrice sur le sol. Donc, au fil du temps, il y a de moins en moins de porcs en forêt, mais au Moyen-Âge, c'est une activité tellement importante que souvent, on évalue la taille d'une forêt selon le nombre de porcs qu'elle peut nourrir en une année.
Et alors, quelles sont les plus grandes forêts que l'on connaît au Moyen-Âge ?
En général,
vous pouvez nous le dire de mémoire.
On dit qu'il faut un hectare pour élever une centaine de porcs, à peu près. Les plus grandes forêts au Moyen-Âge se trouvent en zone germanique ou slave pour l'Europe occidentale. Mais en France, simplement autour de Paris, il y a encore d'immenses forêts.
Mais le cochon, au Moyen-Âge, est aussi un habitant des villes.
Il est déjà présent dans les villes romaines. Les documents en parlent surtout à partir de la fin du Moyen-Âge et tout au long de l'époque moderne où il joue en ville le rôle d'éboueur. Il mange les ordures, il ramasse tout ce qu'il trouve, d'où des excès, des cochons qui pillent une boutique, dévastent un jardin, vont déterrer les cadavres dans les cimetières, occasionnent des accidents.
Il déterre les cadavres dans les cimetières ?
Oui, il faut enclore les cimetières à Paris, par exemple le cimetière des innocents, sur ordre de Philippe Auguste et entouré d'un grand mur pour que les cochons n'y viennent plus. Nous sommes vers 1205-1210. On a des décisions qui interdisent la divagation des porcs en ville dès le XIIe siècle et on en a encore à Naples, par exemple, en plein XXe siècle. Donc ça prouve que ces décisions ne sont jamais respectées et que les porcs ont tout le temps été vagabonds dans les villes d'Europe occidentale, occasionnant toutes sortes d'accidents, notamment des morts d'enfants, voire des morts d'adultes. Et on a des cas où des cochons, après avoir renversé et tué un nourrisson, ont commencé à le dévorer.
Le cochon a même été, je crois, Michel Pastoureau, régicide dans une histoire fameuse.
Oui, c'est une histoire sur laquelle je travaille depuis presque un demi-siècle. En 1131, le fils aîné du roi de France, Louis VI le Gros, qui était aussi roi de France lui, puisque selon l'usage, il avait été sacré du vivant de son père, associé au trône, il a 15 ans, et il meurt dans une rue de Paris d'une chute de cheval provoquée par un cochon de ferme qui est vagabond, qui s'est mis dans les pattes du cheval, qui l'a fait tomber. Et ce cochon, donc, est qualifié de régicide, de porcus diabolique, par plusieurs chroniqueurs, et ça n'est pas anecdotique, c'est une mort qui change le cours de l'histoire de France, c'est une mort qualifiée d'infâme, de misérable, de honteuse, qui jette une sorte de souillure sur la monarchie capétienne, et qui a des conséquences considérables. C'est le cadet qui devient roi, sous le nom de Louis VII, un règne interminable et un règne très malheureux, beaucoup de catastrophes. Il faut effacer la souillure et je développe l'hypothèse que le choix des armoiries royales d'azur semées de fleurs de lys d'or, c'est un choix qui est fait pour protéger le royaume à la suite de cet accident malheureux. On fait appel à la Vierge, on lui emprunte deux de ses attributs, la fleur de lys et la couleur bleue. On en fait les armes de France et la couleur bleue, qui a traversé les siècles et les régimes, est restée la couleur de la France.
J'ai lu sous votre plume, Michel Pastoureau, que les cochons au Moyen-Âge étaient aussi jugés pour tous ces méfaits, accidents, régicides parfois. Donc, au Moyen-Âge, il y a des procès d'animaux.
Oui, à partir du milieu du XIIIe siècle, on a d'assez nombreux documents jusqu'au début du XVIIe qui nous parlent de ces animaux qui sont conduits au tribunal pour crimes et délits divers. On a l'idée que les gros animaux, spécialement les animaux de la ferme, sont capables de comprendre le bien et le mal, donc on peut les juger, éventuellement les condamner. Et 9 fois sur 10, ce sont des cochons, les vedettes de ces procès faits aux animaux. Non seulement parce qu'ils sont nombreux en ville et qu'ils occasionnent beaucoup d'accidents, plus que n'importe quel autre animal, mais aussi probablement, pour des raisons symboliques, en raison de ce cousinage dont nous avons parlé. Il n'est pas toujours condamné. Quelquefois, on lui donne un défenseur, c'est-à-dire ce qu'on appellerait nous un avocat. Quelques affaires sont restées célèbres. Si l'animal est condamné, en général, il est d'abord pendu, puis brûlé. Si on n'est pas parvenu à l'attraper, on prend un congénère, qui n'y est absolument pour rien, qu'on juge à sa place, qu'on condamne, mais qu'on n'exécute pas, puisqu'il n'est pas vraiment coupable, c'est un acteur au fond. Mais plus fréquemment, on fabrique un mannequin en forme de cochon, et c'est ce mannequin qui est pendu, puis brûlé. Par rapport à nos usages modernes, ce qui est frappant, c'est que le propriétaire de l'animal n'est en rien responsable, c'est la bête elle-même qui est coupable.
Ça veut dire aussi qu'on les, d'une certaine manière, considère responsables quand même de leurs actes.
Oui, ça c'est une des grandes leçons du Moyen-Âge. Il y a une communauté des êtres vivants. C'est un héritage d'Aristote, relayé par saint Paul. C'est une idée qui est vraiment dans l'air. Aujourd'hui, on a moins conscience de cette communauté des êtres vivants.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est sa couleur. Aujourd'hui, on représente toujours le cochon sous des traits roses, d'un rose pimpant, vif. D'abord, les cochons dans la nature ne sont pas toujours roses. Pourquoi est-ce que c'est le rose qu'il a emporté dans la représentation de l'animal ?
Oui, les cochons antiques et médiévaux, domestiques, ont une robe foncée en général, noire, gris, brun, rayé, tacheté, et elle s'éclaircit au fil du temps, mais elle prend vraiment cet aspect rose ou blanc-rose qu'à partir du XVIIIe siècle, lorsque, pour améliorer la production de viande, on croise des cochons européens avec des cochons venus d'Asie. Ça change un peu la couleur des poils, et on arrive à ces couleurs que nous connaissons, qui sont assez récentes au fond. Et je me souviens que j'ai été conseiller historique pour un film célèbre, Le nom de la rose, de Jean-Jacques Hano. J'ai été chargé de tout ce qui concernait la couleur et les animaux, bien sûr, et les emblèmes. Et il y avait une scène avec des cochons. Nous sommes au début du XIVe siècle, et ça n'est qu'au dernier moment que je me suis souvenu, je suis vraiment coupable, que les cochons du XIVe siècle n'étaient pas roses comme ceux qu'on avait mis sur le plateau, mais qu'ils devaient être foncés, bruns, gris, noirs.
Et alors, comment avez-vous fait ?
Nous n'avions pas le temps de nous procurer des cochons à robe noire, alors on a fait une chose abominable, nous les avons peints à la bombe. Et ces cochons, donc peints ou à moitié peints, se sont frottés les uns aux autres. Ça a fait une scène très, très gore, et Jean-Jacques Hano était extrêmement content du résultat.
Si le rose l'a emporté aussi dans les représentations, c'est peut-être parce que au XXe siècle, à l'époque contemporaine, il est devenu une figure amicale, notamment pour les enfants. Je pense par exemple, pour citer un exemple entre mille, aux Trois Petits Cochons ou encore au film Babe plus récemment.
Oui, le cochon et l'enfant entretiennent des rapports étroits. Le cochon est un cousin de l'homme, peut-être aussi pour l'homme occidental. Il y a ce transfert de la carnation, de la peau blanche ou rosée vers l'animal qui est son cousin. On a beaucoup, au fil du temps, d'histoires de métamorphose d'humain en cochon. Dès l'Odyssée, par exemple, les compagnons d'Ulysse qui arrivent sur l'île de la magicienne Circé sont changés en porc par la magicienne. Au Moyen-Âge, on a la légende de Saint-Nicolas qui met en scène un méchant boucher qui transforme trois jeunes enfants qui lui ont demandé de l'hospitalité en porcelet, mais le grand Saint-Nicolas fait un miracle et leur rend la forme humaine. C'est une histoire de métamorphose, et plus récemment, on a le beau roman de Marie Darieussecq, Truisme, où une jeune femme progressivement se change en truie et finalement préfère son état de truie à son état de femme. C'est aussi une leçon de morale. Donc la légende, la mythologie, la littérature soulignent également ce cousinage entre l'être humain et le cochon.
Oui, ce cousinage qui se retrouve aussi dans le fait que de nos jours, le cochon sert à beaucoup d'expériences médicales, pour la recherche, pour la chirurgie. C'est un cousinage qu'on retrouve dans les faits.
Oui, le cochon n'est pas une espèce protégée comme les grands singes, donc la médecine s'en sert comme cobaye et lui emprunte aussi de nombreux organes pour des greffes de peau, des greffes d'organes, pour des produits comme l'insuline, par exemple, qui pendant longtemps était de l'insuline de porc. On sait même que une truie peut être, le temps d'une opération, porteuse d'un embryon humain. Le temps qu'on opère la mère biologique, on transporte le fœtus de l'utérus de la femme vers l'utérus de la truie pendant 2, 3, 4 heures, et puis on le replace là où il doit aller, ça donne le vertige. Mais ça, on a l'impression que les sociétés anciennes le devinaient ou le savaient déjà.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in.
Merci beaucoup Michel Pastoureau, vous aurez reconnu la voix des Beatles qui chantaient les Little Piggies, les petits porcelets. Sur le cochon, je renvoie nos auditeurs aux deux ouvrages que vous lui avez consacrés. Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé, paru dans la collection Découverte Gallimard en 2009. Et puis en 2013, toujours chez Gallimard, Le cochon, un ouvrage dans lequel il était aussi question de l'art culinaire associé à l'animal.
L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde.
Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif.
Bête comme...
ses pieds.
Oh. C'est toi qui es bête comme tes pieds.
Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, cette semaine, l'historien Michel Pastoureau, médiéviste et spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, nous conte le parcours à travers les siècles d'un animal célèbre. Celui dont il va être question maintenant est peut-être le plus fameux d'entre tous, une sorte de star, tant sont nombreux les récits, les histoires, écrites ou orales, dont il est le héros. Faire son histoire, c'est peut-être avant tout faire l'histoire de la peur qui nous inspire. Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, cette bête sauvage terrifie l'homme depuis la nuit des temps. Fondée ou non, cette peur fait en tout cas partie de notre histoire culturelle. Aujourd'hui, portrait d'un grand méchant, ou supposé tel, le loup.
Qui craint le grand méchant loup, c'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le goût, tra-la-la-la-la. Si jamais nous le rencontrons, foi de mignon, petit cochon, à sa barbe nous chanterons, tra-la-la-la-la. Il y avait trois petits cochons, à la queue en tire-bouchon, qui lorsqu'on parlait du grand méchant loup, ne s'affolait pas du tout, le premier joyeux.
Bonjour Michel Pastoureau.
Bonjour.
Qui craint le grand méchant loup, la très célèbre chanson, est ici interprétée par Georges Milton pour la version française du court-métrage Les Trois Petits Cochons, un court-métrage produit par les studios Disney, bien sûr, en 1933. La première question que j'ai envie de vous poser, Michel Pastoureau, est-ce que le loup nous a toujours fait peur ?
Oui et non. Dans la longue durée, on peut dire que la peur du loup, en Occident, c'est un fait constant au fil des millénaires et des siècles. Mais il y a quand même des périodes où elle se ralentit, elle se fait moins grande. Moi qui suis historien du Moyen-Âge, j'aurais tendance à distinguer trois périodes pour le Moyen-Âge des rapports entre l'homme et le loup. Un haut Moyen-Âge où l'homme, en effet, a peur du loup. Puis un Moyen-Âge central où cette peur se fait plus discrète. Le roman de Renard, par exemple, qui date des 12e et 13e siècles, met en scène un loup ridicule, Isengrin. Et puis de nouveau, à la fin du Moyen-Âge, période de catastrophe, notamment climatique, période où tout le monde a faim, y compris les animaux, les loups entrent dans les villes et les villages et font de nouveau peur. Mais la peur du loup, c'est plutôt une affaire de l'époque moderne, 16e, 19e siècle. Là, la peur est immense et le fait que le Petit Chaperon Rouge soit publié par Perrault en 1697, c'est-à-dire à la fin du 17e siècle, ou que l'histoire terrible de la bête du Gévaudan se situe dans les années 1760, sous le règne de Louis XV, c'est assez révélateur de la modernité, au fond, de cette peur.
Alors, on va revenir sur toutes ces histoires au fil de cette émission. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par le commencement, le moment où donc le loup ne fait pas peur, dans l'Antiquité, par exemple? Comment est-ce qu'il est perçu? À quelle symbolique l'associe-t-on?
La symbolique du loup antique est ambivalente, comme celle de la plupart des animaux. Il y a un bon et un mauvais loup. Le mauvais loup, le loup terrible, le loup dont se méfie, c'est celui des Germains, par exemple, et de l'archétype, le loup Fenrir, celui qui va mettre fin à la vie des dieux et à celle des hommes en mangeant la lune et le soleil.
C'est le loup Fenrir.
Fenrir, oui, c'est un loup redoutable que les dieux ont enchaîné, mais qui va finir par briser sa chaîne et, au fond, dévorer tout le monde. Ce sera le crépuscule final. Inversement, chez les Romains, le loup, mais surtout la louve, est plutôt valorisé à cause de l'histoire de Romulus et Rémus.
Oui, c'est la fameuse louve romaine.
C'est la louve romaine. Les deux jumeaux avaient un grand-père qui régnait sur une ville voisine de Rome, qui n'existait pas encore. Il a été chassé par son propre frère, qui, pour éliminer ses petits-neveux, les avait placés dans les eaux du Tibre, pensant qu'ils allaient se noyer, et puis le Tibre, personnifié, a eu pitié des jeunes enfants, les a déposés à l'entrée d'une grotte où ils ont été nourris et élevés par une louve. Romulus et Rémus ont grandi, ont rendu le trône à leur grand-père et puis ont décidé de fonder une ville. Ils n'étaient pas d'accord sur l'emplacement. Rémus penchait pour l'Aventin, Romulus pour le Palatin. Les dieux ont désigné le Palatin. Rémus, furieux et jaloux, a fini par être tué par Romulus.
Romulus qui gagne dans l'histoire.
C'est Romulus qui gagne, qui fonde la ville de Rome au 8e siècle avant notre ère. Le lieu où ils ont été recueillis par la louve devient un lieu sacré. Le figuier qui les avait protégés, un arbre sacré. Et les deux animaux qui les avaient protégés et nourris, d'abord la louve puis l'aigle, deviennent deux des emblèmes de la Rome antique. La louve est particulièrement célébrée et mise en scène à Rome, alors que le loup est, chez les voisins, plutôt un animal négatif.
La louve romaine, donc, est une louve féconde, protectrice, bienveillante.
Et nourricière, oui, tout à fait, c'est un animal pris en bonne part. Ça déroute un peu l'historien parce que, dans un sens commun, la louve, loupa en latin, c'est un terme péjoratif qui désigne la femme adultère, la prostituée. On en a gardé d'ailleurs dans notre vocabulaire le mot lupanar, qui est un lieu de débauche, là où il y a des femmes qui sont des louves. Donc, comme dans beaucoup de sociétés, chez les Romains, les symboles sont ambivalents, y compris la louve elle-même.
Et est-ce que dans l'Antiquité, malgré tout, le loup est aussi perçu comme un animal cruel? Est-ce qu'il était un prédateur à l'époque?
Oui. Du point de vue symbolique, le loup, ce sont deux choses. D'abord, une gueule ouverte qui dévore, qui mange tout, et notamment les petits-enfants. Et d'autre part, des yeux qui voient la nuit. Et pour beaucoup de sociétés, les animaux qui voient la nuit sont des animaux négatifs, des animaux qui entretiennent des rapports avec le diable.
Cette vision nocturne est celle qu'on retrouve aussi dans les légendes du loup-garou, parce que le loup-garou, c'est celui qui apparaît à la pleine lune.
Le loup-garou, c'est un homme qui, certains jours, notamment les jours de pleine lune, la nuit, se transforme en animal et spécialement en loup. On a beaucoup ergoté sur la signification de garou. Est-ce que cela veut dire un loup dont il faut se garder, une étymologie germanique donc, ou bien faut-il chercher autre chose? En tout cas, les histoires de loup-garou, on en a trace dans des époques très très reculées, mais c'est au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne qu'on a les histoires les plus nombreuses. Il y a des hommes, plus rarement des femmes, mais surtout des hommes donc qui sont accusés d'être des loups-garous. C'est la grande époque où on fait la chasse aux sorciers au 15e, 16e et 17e siècle. Et fin 16e siècle encore, en Bourgogne, en Franche-Comté, il y a des hommes qui sont mis à mort, exécutés, parce qu'on les soupçonne d'être la nuit des loups-garous. Je crois que le dernier procès date de 1595, donc à une date très 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 avancée.
Et le loup-garou, c'est un homme, donc mi-homme, mi-loup, qui est amateur de chair humaine. Il est réputé dévorer des humains.
Il est réputé dévorer les enfants, il commet des méfaits de toutes sortes, soit contre son gré, il est puni, il est transformé, soit volontairement, et naturellement, ceux qu'on appelle les sorciers passent pour se transformer facilement quand ils le veulent en loup-garou. Quand ils ont forme humaine, on dit qu'on les reconnaît, en tout cas au XVIe siècle, on les reconnaît à leur aspect pileux, à leurs doigts courts et plats, pâtés, et à leur comportement quelque peu mélancolique, comme s'ils regrettaient leur état animal. On dit aussi que les enfants mâles bâtards ont des prédisposition pour devenir des loups-garous.
Le loup amateur de chair humaine, c'est une idée qu'on retrouve au fil des temps. Est-ce que c'est une idée ancienne ?
C'est une idée très ancienne. On a beaucoup débattu pour savoir si le loup attaquait l'homme, si le loup mangeait la chair de l'homme, et notamment de l'homme vivant, en quelque sorte. L'un de mes collègues de l'université de Caen, Jean-Marc Morisseau, a étudié avec son équipe d'étudiants pour les 16e, 18e siècles, 3000 attaques de loups sur des enfants et des jeunes femmes ou des jeunes filles, voire des adultes mâles dans la France d'Ancien Régime. Il a eu pas mal d'ennuis avec des écologistes partisans de la réintroduction du loup dans l'Est de la France, soulignant que jamais le loup n'attaque l'être humain. Or, sous l'Ancien Régime, les documents sont là.
C'est un sujet qu'on débat encore aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui le loup existe en France. Il en existe, je crois, à peu près 300 sur notre territoire.
Oui, et puis il y a des loups qui franchissent les frontières, évidemment, qu'on a du mal à dénombrer, mais ceux qui viennent d'Italie du Nord, du Trentin, sont arrivés dans les Alpes, puis au-delà des Alpes, se sont introduits vers les monts d'Auvergne, rejoignent les territoires de la bête du Gévaudan. Il y a aussi ceux que l'on a réintroduits volontairement. Il y a des débats. Pour l'historien que je suis, il est évident que le loup, à certains moments, notamment lorsqu'il a faim, qu'il peut attaquer l'être humain.
Alors justement, Michel Pastoureau, vous mentionnez l'histoire de la bête du Gévaudan. Il faut absolument qu'on s'y arrête un moment parce que c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler un peu la substance ?
Oui, nous sommes sous le règne de Louis XV. L'affaire commence en 1764 dans ce Gévaudan qui correspond à peu près au nord de l'actuel département de la Lozère. C'est pour la première fois une vachère qui est attaquée un après-midi par une bête étrange. Elle n'est pas tuée, elle n'est que blessée, mais elle souligne que cette bête ressemblait à un loup, mais que ce n'était pas un loup. On n'y fait pas trop attention. Puis dans la même zone géographique, un peu plus tard, c'est une bergère qui est dévorée. Ensuite, c'est un gardien de cochon qui est sauvé par ces animaux, qui affronte la bête. Et puis les attaques se multiplient. L'affaire prend beaucoup d'ampleur pendant l'année 1764. L'intendant de Languedoc envoie des dragons qui sèment la terreur presque autant que la bête. Et puis,
soldats donc, hein, pas des vrais dragons.
Non, des soldats, oui, du corps des dragons. Puis il y a une période d'accalmie, puis les choses reprennent en 1765, au point qu'on fait appel aux deux meilleurs chasseurs de loups de France, les deux Normands, les Denval, père et fils. Ça entraîne une période d'accalmie, ils se retirent et la bête multiplie ses attaques pendant l'hiver 65-66. Le roi envoie son meilleur louvetier. Ce personnage tue un loup énorme. On croit que c'est la bête du Gévaudan. Et puis elle recommence pendant l'année 1767. Et alors là, on prend des mesures énormes, des battues. Jusqu'à 10 000 hommes arpentent le territoire du Gévaudan.
Bête est supposée avoir tué combien de personnes pour qu'on aille jusqu'à employer 10 000 hommes pour la chasser ?
Pendant 3 ans et demi, je crois que les morts se situent entre 120 et 150 et les blessés sont plus nombreux encore. On se demande s'il n'y a pas plusieurs bêtes, on émet des hypothèses. Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est le croisement d'un loup et d'un chien? Est-ce que ce n'est pas non plus un meneur de loups, c'est-à-dire quelqu'un qui est le maître des loups, qui les excite,
qui les éduquerait à tuer.
Et l'éduquerait à tuer en différents endroits au même moment. Finalement, au cours d'une de ces immenses battues, un paysan local un peu inquiétant, il s'appelle Châtel, tue un énorme loup qui a un peu l'âge d'un type un peu particulier en ce sens qu'il est rayé. À partir de ce moment-là, donc l'automne 1767, les attaques cessent. Et étrangement, ce paysan n'est pas vraiment remercié. C'est un être dont la population se méfie, qui a mauvaise réputation. Le roi Louis XV demande à voir la bête et quand il apporte le cadavre à Versailles, le roi s'en détourne tellement l'animal sent mauvais, il demande à ce qu'on l'enterre au plus vite. Buffon, qui voulait l'examiner, n'a même pas le temps d'arriver qu'il n'y a plus de bête du Gévaudan. Donc, on ne sait pas très bien quelle était cette bête. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus solide est qu'il y a derrière un maître des loups, en quelque sorte, peut-être revêtu d'une peau en cuir de sanglier, parce que cette bête semble insensible aux armes à feu et aux armes blanches. Pour l'historien, le plus important dans cette affaire, c'est l'aspect médiatique. Pour la première fois, en effet, un fait divers est rapidement connu dans toute l'Europe. La bête attaque en début d'après-midi en Gévaudan. Le lendemain matin, toute l'Europe occidentale est au courant. Et la presse, naturellement, multiplie les articles et les images sur cette affaire. Donc je crois que le dossier le plus important, c'est le dossier médiatique.
Alors si on revient un peu en arrière pour parler du loup à travers les siècles, Michel Pastoureau, avant d'être la terrible bête du Gévaudan, ou peut-être l'a-t-il été, vous avez rappelé pour commencer cette émission qu'il avait aussi été au Moyen-Âge un animal plutôt rigolo. Dans le roman de Renard par exemple, il n'est pas du tout un animal qui terrorise, c'est même la victime de Renard, le héros.
Oui, nous sommes probablement dans une période où le loup ne fait pas peur. La fin du XIIe siècle, la première moitié du XIIIe siècle, le roman de Renard, c'est un ensemble de textes littéraires dus à des auteurs différents, avec des contes séparés qu'on appelle des branches.
Oui, il faut rappeler qu'il n'a de roman que le nom. Hein. Le nom roman n'a rien à voir avec ce qu'on désigne aujourd'hui par le terme de roman.
Roman signifie qu'il est écrit en langue vernaculaire et pas en latin. Donc c'est une histoire qui tourne autour du goupil, c'est-à-dire du renard, qui met en scène différents animaux, et notamment Isengrin, qui est l'autre vedette du roman, et la vedette négative, auquel le renard joue toutes sortes de tours, le trompe, le berne, viole sa femme, terrorise ses enfants, et
oui,
ainsi de suite.
Oui, pour le coup, c'est la victime absolue.
Les autres animaux, d'ailleurs, se moquent aussi de lui. Il est ridicule, et ça souligne que soit on n'a pas tellement peur du loup à cette époque, soit qu'on a besoin de cette espèce de catharsis ou de soupape pour évacuer une peur peut-être trop grande. En tout cas, c'est un loup qui ne fait absolument pas peur.
Est-ce que la tradition chrétienne a, elle aussi, fait du loup une image du diable? Parce qu'on a vu souvent au cours de ces émissions que la chrétienté avait tendance à attribuer aux animaux des caractères diaboliques.
Le loup n'est pas une des vedettes du bestiaire chrétien, c'est plutôt une des vedettes du bestiaire païen, mais il y a quand même une symbolique chrétienne du loup, et elle est évidemment totalement négative. C'est un animal qui est redoutable, qui n'a au fond que des vices. Il est féroce, il est indomptable, il est cruel, il est sauvage, il est rapace et voleur, il est rusé aussi. Les bestiaires racontent comment, quand un loup est tout seul, il fait croire qu'ils sont plusieurs, en mettant sa main devant sa bouche et en faisant des bruits différents. C'est un animal aussi qui marche à reculons pour faire croire qu'il va dans un sens alors qu'il va dans un autre, et ainsi de suite. C'est un animal qui se déguise, qui passe pour imiter la voix humaine, comme dans certaines histoires, y compris la chèvre de Monsieur Seguin, où il imite soit la voix de la chèvre, soit la voix du propriétaire, Monsieur Seguin lui-même. Le loup est un rusé, c'est un cruel. On raconte que il tue par plaisir plus qu'il n'a besoin de nourriture et qu'il massacre ses victimes, qu'il les dispose de manière à effrayer les populations. Bref, il circule des histoires extrêmement nombreuses et c'est encore bien présent au 19e et au 20e siècle dans la vie des campagnes en Europe occidentale.
Si on pense au loup comme personnage, impossible de ne pas ici à un moment faire allusion aux fables de La Fontaine, parce que le loup est l'un des animaux qui revient le plus souvent sous la plume de La Fontaine.
Oui, et il n'a pas toujours le beau rôle. Le loup, soit est cruel et sauvage comme dans Le loup et l'agneau, où le loup dévore l'agneau à la fin, soit il est ridicule comme dans le roman de Renard.
Mais tout de même, dans Le loup et l'agneau, la fable qui commence par la célèbre citation, hein, « La raison du plus fort est toujours la meilleure », dans cette fable, le loup est absolument vorace et méchant.
Oui, oui, c'est un loup méchant, cruel, beau parleur aussi, et puis il dévore l'agneau. Et c'est un peu à l'image de ce qui se passe parfois dans la réalité.
C'est aussi une figure de l'arbitraire dans cette fable.
De la violence, de l'arbitraire, des plus forts qui dévorent les plus petits, c'est une image qui vient de loin. À l'époque féodale, on en fait l'image des grands barons, des grands seigneurs qui n'ont aucune pitié pour les pauvres paysans et qui les dévorent symboliquement en les réduisant à la misère.
Le loup est aussi le héros par excellence des contes. Pour enfants, pour adultes, il nous faut évoquer bien sûr Le Petit Chaperon Rouge, qui est évidemment l'une des histoires qui ont rendu le loup célèbre. Il en existe plusieurs versions. À quand remonte la première version, si on le sait ?
Dans l'état actuel de nos connaissances, la plus ancienne version latine date des environs de l'an 1000. C'est un texte copié dans la région de Liège, un peu avant ou un peu après l'an 1000, qui met en scène une petite fille qui porte une robe rouge. Pourquoi rouge? Mais en tout cas, elle est dévorée par un loup à la fin. Alors il y a plusieurs fins dans les différentes versions. Il y a des fins heureuses et puis il y a des fins qui ne le sont pas. Pour ce qui est du rouge de la petite fille, on a avancé pas mal d'explications. Est-ce que c'est le rouge habituel des enfants? On habille des enfants de rouge pour qu'on les reconnaisse facilement. Ou bien est-ce que, comme le disent certaines versions, l'histoire se passe le jour de la Pentecôte? Ou bien la petite fille est née le jour de la Pentecôte et la Pentecôte est vouée liturgiquement à la couleur rouge? La psychanalyse s'en est mêlée. Bruno Bettelheim a souligné que la petite fille était en fait pubère ou prépubère et qu'elle avait très envie de se retrouver dans le lit avec le loup. Donc ce
oui, c'est
rouge...
l'interprétation qu'il fait dans son livre « La psychanalyse des contes de fées », Bruno Bettelheim.
Voilà, et il fait du rouge une couleur de l'érotisme en quelque sorte. C'est un peu anachronique pour les plus anciennes versions. On peut imaginer aussi que le rouge ne doit pas être envisagé tout seul, mais par rapport au noir, couleur du loup et couleur de la grand-mère, et au blanc, couleur du petit pot de beurre. Donc on a un schéma ternaire blanc-rouge-noir que l'on retrouve dans de nombreux contes.
Mais alors quel serait le sens de cette triade, la signification de cette triade de couleurs ?
Eh bien, ça n'est pas tellement symbolique que sémiologique, c'est-à-dire la façon dont, dans la narrativité, les couleurs tournent et jouent un rôle distributionnel. Ça permet d'évacuer ou de relativiser les explications de type sémantique ou symbolique.
Alors, si j'en reviens à l'histoire du conte, hein, le conte a été tout de même rendu très célèbre par la version qu'en a donnée Charles Perrault, hein, qui a été publiée en 1697 dans son recueil « Les contes de ma mère Loie ». Dans sa version à lui, ça finit très très mal, puisque le loup dévore, pour finir, la petite fille, après avoir dévoré la grand-mère.
Voilà. Et dans des remaniements de la version de Perrault, on a un peu arrangé les choses en faisant intervenir un chasseur qui finalement attend le loup avant qu'il ne dévore la petite fille. Chasseur,
oui, c'est une version édulcorée en fait.
Édulcorée, hein. Disneyisée presque pourrait-on dire.
C'est la version qu'en donnent les frères Grimm notamment.
Oui, les frères Grimm arrangent un peu les choses comme ils le font souvent d'ailleurs dans leur recueil de contes.
Et c'est aussi un conte qui a prêté, vous l'avez mentionné, qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations sexuelles. Parce que dans la version de Perrault, c'est assez frappant. Perrault nous raconte que cette petite fille va dans le lit du loup, qu'elle s'allonge à ses côtés. Donc c'est en effet, quand on lit la version de Perrault, une interprétation qu'on a du mal à ne pas faire.
Oui, bien avant la psychanalyse, qui est un outil de notre temps pour mieux comprendre notre temps, il y a quand même dans un certain nombre de récits, les romans de chevalerie médiévaux par exemple, ou un certain nombre de contes, une dimension érotique ou sexuelle sans qu'il soit besoin d'aller très loin. Et en effet, dans Le Petit Chaperon Rouge, dans cette espèce d'attrait, rejet, proximité dans le lit, cruauté et même la dévoration, elle est partiellement sexuelle.
Alors à l'époque contemporaine, hein, on peut constater que le loup a connu une forme de renversement, du moins sa symbolique, sa représentation, puisque dans la plupart des livres pour enfants aujourd'hui, il est plutôt un animal gentil. Je pense par exemple, pour citer un seul exemple, au personnage de Loulou, celui inventé par Grégoire Solotareff.
Oui, dans le livre pour enfants, évidemment, faut un peu édulcorer les choses ou les inverser. Il y a des gentils loups, des loups bleus, des loups verts. Un graphisme aussi qui va dans le même sens où les traits redoutables et cruels du loup sont atténués et prennent un aspect bonasse en quelque sorte. Il y a aussi toute la mythologie des louveteaux du scoutisme où de jeunes garçons jouent à être des loups, reçoivent des surnoms empruntés au monde des loups et de la vie des animaux de la forêt. Tout ceci a fait pas mal pour démythifier ou relativiser la cruauté de cet animal.
Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou? C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire à mi-voix. Elle était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin, elle aperçoit le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha du loup. Cha-cha-cha du loup.
Merci beaucoup Michel Pastoureau. On se quitte au son de Serge Gainsbourg qui a interprété en 1960 le cha-cha-cha du loup, qui jouait lui aussi sur l'imaginaire d'un loup séducteur. Sur le loup, entre autres références, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage sur les bestiaires du Moyen-Âge, paru au Seuil, ainsi qu'au recueil intitulé Les animaux célèbres, paru chez Bonneton.
Venir sur mes genoux, mais je t'aime bien, ne crains rien, approche-toi, je ne te mangerai pas. Ne sois pas cruelle.
C'était Les animaux ont aussi leur histoire, une émission réalisée par Anne Pérez, avec à la prise de son, Émilie Couette.
Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha du loup. Ouh, cha-cha-cha du loup.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France Culture les 9 et 16 août 2015. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France où vous retrouverez également les autres épisodes de la série.